Radio Campus Lille, 1969-2019, 50 ans de liberté sur les ondes. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Nous sommes ravis d'être avec vous sur Radio Campus 106.6 comme tous les dimanches de 18h à 19h. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes trois. Il y aura moi-même en tant que maître de jeu, François. Je suis accompagné de l'incroyable troll pervers Reynald.
Bonsoir à tous.
Et le magicien qui voyage dans l'espace temporel des geeks, Dominique.
Salut.
Et aujourd'hui, comme vous avez pu le deviner, nous allons vous parler un peu de jeux de rôle et notamment d'une grande saga qui a initié un peu tout ce domaine du JDR qui est Donjons et Dragons. Et on aura quelques news insolites, un album découverte.
Si on a le temps, hein.
On va essayer de reprendre cette bonne habitude qui est l'album découverte. Et pourquoi est-ce qu'on parle de Donjons et Dragons? Tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs jeux dernièrement dont on a testé des bons et des mauvais. Et une grosse annonce qui est aussi la sortie de Baldur's Gate 3. Qui nous permettra aussi de parler de l'univers de Donjons et Dragons. Alors, si on parle de D&D, on va parler forcément d'univers fantastique, mais aussi...
Ça va nous changer, tiens.
Mais aussi de jeux de rôle, puisque l'univers du jeu de rôle papier tel qu'on le connaît avec un livre de règles, etc., Donjons et Dragons sera le précurseur.
C'est le premier gros. Alors, est-ce que c'est le tout premier jeu de rôle? C'est difficile à dire parce qu'il y a toujours eu des gens qui ont des activités où tu te mets autour d'une table et puis tu racontes une histoire, tu fais vivre des aventures à des personnages. Donc, c'est pas le premier. C'est vraiment le plus connu. C'est la référence. D'ailleurs, aux États-Unis, ce qui est marrant, c'est qu'ils disent pas jouer un jeu. En France, on dit jouer un jeu de rôle. Que tu joues à un jeu de rôle Vampire ou Cthulhu ou je ne sais pas, ou Ars Magica ou je sais pas quoi. Mais aux États-Unis, t'es toujours un D&D player. Tu joues toujours à D&D. Même si tu joues, je te dis, à un autre jeu, quel qu'il soit, que ce soit Cyberpunk ou quel que soit l'univers, même un Star Wars, un jeu dans l'espace, t'es toujours un D&D player, un joueur de Donjons et Dragons, pratiquement, c'est ça.
C'est ça.
C'est rentré dans le langage commun, on va dire. Comme ici en France, on dit frigidaire au lieu de dire réfrigérateur. Mais...
Alors, comment est né un peu cet univers de Donjons et Dragons? Alors, ça n'est pas apparu tout seul. C'est basé plus ou moins sur le Wargames. On en a parlé lors des dernières émissions, notamment grâce à la Forge Ludique, des jeux de figurines. Donc, vous allez simuler un peu des batailles avec des figurines, lancer des dés et le fait qu'elles s'attaquent. Et à la fin, il y a forcément un vainqueur. Et les créateurs de ce jeu, donc c'est Gary Gygax.
Alors, la prononciation, ça s'écrit Gygax. Alors, vous le prononcez comme vous voulez. Ce brave monsieur qui nous a quitté il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, effectivement, était fan de jeux de simulation de guerre, de wargame avec ses potes. Et puis, un jour, il s'est dit, entre les batailles, ce week-end, on a fait une bataille avec mes potes. La semaine prochaine, on va faire une bataille. Et entre deux, qu'est-ce qu'ils font nos personnages, nos petits soldats, nos petites figurines, nos petits héros, là? Le prêtre, le guerrier, le magicien dans mon armée, qu'est-ce qu'ils font? Ils se reposent, ils vont en vacances, ils vont à la mer, on sait pas. Et il s'est mis à imaginer un jeu avec ses potes et où il pourrait faire vivre entre des batailles les désaventures à leurs personnages. Et c'est comme ça qu'est né. Alors, le nom n'est pas venu tout de suite. Le jeu qu'elle jouait, ça s'appelait Chainmail, donc chaîne de...
Chainmail, une cote de...
Une cote de maille, oui, c'est ça, tout simplement.
Et c'était un vrai wargame.
Absolument.
Donc pas d'aspect jeu de rôle où vous allez raconter une aventure.
Qu'ils avaient créé eux-mêmes et inventé. Ouais.
Et suite à des petites dissensions avec la boîte qui avait créé, qui avait participé pour la production du jeu, il a décidé de son côté de créer autre modèle qui va s'avérer être le jeu de rôle papier tel qu'on va le connaître aujourd'hui. Ça, c'est, on est dans les années 70.
C'est ça, exactement.
Et
D'ailleurs, aux États-Unis, pour les gens qui n'auraient pas suivi.
Et il s'est basé, au niveau en tout cas du gameplay, sur ce jeu wargame qui s'appelle Chainmail. Mm-hmm. Et à tel point que certains joueurs, lorsqu'ils ont commencé à jouer à Donjons et Dragons, il y avait des règles qui manquaient. Il fallait aller revoir dans le livret de Chainmail pour vérifier comment est-ce qu'on attaquait, etc. Donc ça, c'est assez sympa. Pour, cette fois-ci, l'univers fantastique de Donjons et Dragons, encore une fois, ce n'est pas né de zéro. Il a plus ou moins pris des idées qui venaient de Chainmail, mm-hmm. puisque Chainmail à la base était un jeu plus ou moins réaliste, mm-hmm. sans aspect fantastique, mais ils ont sorti une petite extension après où il y avait certains dragons, etc. Et il s'est basé un peu sur ça pour créer Donjons & Dragons, et aussi sur l'univers de Tolkien, qui à l'époque était en pleine expansion.
La référence, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, etc. Voilà. Les elfes, les nains, qui sont Donjons et Dragons, on va en reparler, ils viennent de où ? Entre autres, de l'univers créé par Tolkien. Quoi.
Voilà, donc le mix de Chainmail et de l'univers de Tolkien a créé ce Donjons et Dragons qu'on connaît tous maintenant, puisque hein, les nains, les elfes, les dragons, forcément, ont vraiment été travaillés en profondeur, puisque ce nouveau jeu de rôle qu'on connaît à l'époque permet de faire une expansion de son personnage, de l'évoluer, d'avoir des niveaux, d'augmenter certaines caractéristiques, et chacun des personnages aura plus ou moins un job qu'on appellera une classe.
Oui. Donc, faut savoir que dans la première version, alors on va faire un petit peu l'historique. Donc, après avoir créé ce jeu, ils ont créé leur société qui s'appelait déjà TSR à l'époque, c'est Tactical Studies Rules. Donc, c'est des règles de combat précises, quoi, pour diffuser leur jeu. Et la toute première version, il n'y avait que trois classes jouables. Il y avait le guerrier, qui s'appelait le Fighting Man, enfin le guerrier, le mage, donc le wizard, ça dépend des versions, et le clerc. Donc oui, il y avait un soigneur quand même qui servait.
C'est
vraiment là, on va dire c'est la sainte trinité que les joueurs de MMORPG actuels connaissent toujours, enfin depuis, notamment sur les jeux les plus connus comme World of Warcraft. Il faut un tank. Quand tu pars en exploration d'un donjon dans un jeu maintenant, il te faut un tank, il te faut un soigneur. Pour garder le tank en vie.
Alors, le tank, c'est celui qui encaisse les dégâts. Hein.
En gros, c'est ça. C'est celui qui se met devant, qui dit au monstre, tapez sur moi et tapez pas sur les gars qui sont en robe derrière moi. Ouais, même
c'est
si
pas
c'est
celui
des
qui frappe le plus fort principalement, mais c'est celui qui encaisse le mieux.
Et tu as un mage ou un archer, etc. à ce qu'on a fait à quelqu'un qui fait des dommages. Et donc, déjà à l'époque, dans la toute première version de Donjons et Dragons, il y avait déjà la fameuse Sainte Trinité. Et plus tard, ils ont rajouté des rôdeurs qui sont spécialisés dans l'art, des paladins qui soient soignés, puis en plus taper fort, etc., etc.
Donc ça permet de forcer les joueurs à avoir une certaine cohésion entre eux.
On est toujours dans les années 70 là, oui c'est ça.
On a vu très peu de parties de jeux de rôle qui commençaient avec tout le monde avec la même classe. Parce
ça pourrait être rigolo. Ça pourrait être rigolo.
Tu as du mal à arriver au niveau 3 au bout d'un moment parce qu'il faut bien que quelqu'un te soigne au bout du niveau.
De mémoire, le jeu était assez létal quand même dans les premières versions.
Mais riez pas parce qu'on a joué, nous je crois qu'on a, moi j'ai joué, moi j'ai testé au moins j'ai fait au moins une partie dans toutes les versions, parce que là on est encore à Donjons et Dragons, la première version, la toute dernière qui date de 2018, c'est la 5, on y reviendra un petit peu, donc Donjons et Dragons 5, je crois que j'ai touché à toutes les versions, et on a testé, François, je sais pas si tu te souviens, t'étais dans le groupe, on avait testé la première version, Donjons et Dragons 1, et moi j'avais fait un guerrier, donc j'étais censé être le tank du groupe, sauf que quand tu crées ton perso, tu mets un nom, tu tires au sort les caractéristiques
qui sont
les mêmes depuis le début du jeu, hein. C'est toujours la force. La force qui te donne les dégâts que tu fais au corps à corps et ton habileté au combat corps à corps. La constitution qui donne tes points de vie, ta capacité à résister aux maladies et aux poisons. La dextérité qui est plutôt pour les voleurs, l'agile. En gros, et pour le tir, tout aussi. Ce qui est arme de tir, etc. Mmh. Et ta facilité de mouvoir et d'esquiver les attaques. L'intelligence, très important pour les mages. Et c'est aussi les connaissances que tu veux acquérir, combien de langues tu peux parler, etc. La sagesse, c'est plutôt pour les prêtres, la capacité à soigner, etc. Et ça se permet aussi de savoir comment tu comprends ton environnement. Et la dernière, c'est le charisme, qui sert
aux actions sociales,
qui
sert pour le jeu
classes.
De rôle, justement,
aux négociations, comme les sorciers. Enfin, c'est un peu plus compliqué, on va pas rentrer dans les détails. Ouais. Et on tirait ces caractéristiques au hasard.
Après,
donc,
avoir
quand
t'étais
un guerrier, tu mettais la plus forte si possible. Ah oui, parce que dans la toute première version, tu tirais au hasard, donc tu pouvais choisir. Ah, je vais faire un guerrier, et tu pouvais tu lançais 3 dés ou je sais plus quoi, tu avais 3 en force, t'étais mal. Mais c'est la vie. Et ensuite, tu tirais tes points de vie. Et moi, j'ai tiré mes points de vie en tant que guerrier, j'avais un point de vie. Je m'en souviens.
C'est-à-dire
que j'étais censé être celui qui allait devant pour protéger, sauf que j'étais derrière, j'attrapais le nain du groupe et je le lançais dans les monstres. Et on était contents. Et j'ai survécu. Et notre groupe, et on est tous passés au niveau 2. On était contents de passer au niveau 2. Et quand tu gagnes un niveau, tu gagnes aussi des points de vie. Et tu relances un point de vie. Et pour mon guerrier, je relance les points de vie. J'ai encore fait un. Donc j'avais un magnifique guerrier de niveau 2 qui avait deux points de vie, qui est, c'était la misère. Limite, on est pas allé beaucoup plus loin, je crois.
Limite, tu le sacrifies et toi, tu fais un reroll direct.
Et tu recommences directement. Mais enfin bon, c'était les aventures. C'était un jeu très, très mortel, mais on n'imaginait pas qu'on allait jouer très, très longtemps avec ces personnages, quoi. C'était pour s'amuser.
C'est ça, puisque une partie de jeu de rôle, alors le maître de jeu prépare bien sûr les monstres, etc. Mais tous les joueurs avec leurs personnages vont l'évoluer et on parle d'une
partie, ça
dure de 4 à minimum 3-4 heures voilà. Si tu veux faire une petite partie correcte, jusqu'à un week-end complet en faisant une petite nuit blanche pour continuer la semaine suivante.
Ah, les nuits blanches complètes.
Il y a des joueurs qui jouent depuis 15 ans avec leurs personnages à Donjons et Dragons.
Waouh, alors s'il n'est pas mort, le mien, je pense pas que mon guerrier n'aurait pas survécu aussi longtemps, je crois. Mais on ne sait pas, avec un peu de chance.
Alors cette première édition qui était qui restait assez basique, mais assez quand même bien travaillée
en 1974, ah oui, c'était déjà...
Il y avait quand même quelques problèmes d'équilibrage au niveau des classes, puisqu'apparemment le magicien avait un peu trop de pouvoir comparé à quelqu'un qui prendrait le gnome ou le hobbit qui servait complètement à rien. Alors tu vas me dire, peut-être dans les nouvelles versions de D&D maintenant, c'est toujours
ça râle toujours. Ça râle toujours.
Alors... Après la première édition, forcément, on en a eu une deuxième qui s'est appelée Advanced.
Notez sur la première édition, donc c'est sorti en livre au départ, puis il y a eu plusieurs versions. Il y a une boîte rouge, c'est pas de bêtises. Ouais. C'est celle qu'on peut voir sur ce que j'ai mis sur la publication sur Facebook, etc. La fameuse. Et si vous avez des boîtes d'origine, etc., elles sont vendues très très cher aux enchères, etc. C'est très recherché, mais bon, j'ai vu quelques éditions assez rares. Et donc, oui, effectivement, dans les années 80, fin des années 80, on est passé à la version 2 qui s'appelait Advanced Donjons et Dragons.
C'est la version que les joueurs connaîtront le plus, je pense.
Je pense que c'est la plus jouée. Il y a encore des gens qui jouent maintenant, hein, figure-toi.
Qui a été édité de façon massive et qui avait aussi un nouvel atout qui a paru plusieurs années après, c'était des kits de démarrage.
Oui.
Donc moi je me souviens, c'est la première fois que j'ai attaqué le jeu de rôle, c'était avec cette petite boîte.
On a joué à la version 2 avant de jouer à la première version, en fait.
Qui bien sûr ne mettait pas toutes les règles, mais te faisait un petit aperçu de ce que serait une séance de jeu de rôle.
Il faut savoir que le jeu, dès la première édition, a eu tellement de succès qu'il y a eu beaucoup d'éditions. Les gens ont voulu créer... Il y a eu ce qu'on appelle des extensions, qui sont des termes communs aussi dans le monde du GDO. C'est-à-dire qu'ils ont ajouté effectivement des nouvelles classes. Des gens voulaient avoir des nouveaux sorts pour leurs mages, des nouveaux sorts pour leurs prêtres, des nouvelles armes. Parce que, bien sûr, à force de taper des gobelins dans les donjons, tu tombais toujours sur les mêmes armes. Non, les gens voulaient des nouvelles armes ou des nouvelles règles ou des nouveaux univers, des nouveaux endroits à visiter, des nouveaux dieux pour leurs personnages, etc. Des nouvelles montures, des nouvelles bébêtes à taper, etc. Et à force, ça faisait plein de... Tu venais à ta partie de journal, t'avais une boîte complète de bouquins, etc. Et ils ont réussi à résumer au fur et à mesure des éditions. À chaque fois, ils remettaient toutes les nouvelles choses dans les nouvelles éditions. Il fallait un peu nettoyer tout ça, quoi.
C'est ça, sans parler de tous les scénarios.
Oh, c'était terrible.
Puisqu'il y a deux façons de jouer au jeu de rôle, en tout cas pour un maître de jeu. C'est soit de créer son propre scénario, mais ça prend du temps et ça demande beaucoup d'imagination. Parce qu'on a des joueurs autour de la table qui ne seront pas forcément coopératifs.
Au contraire,
Dominique.
Qui cherchent même à pourrir un peu la partie.
Je me souviens, j'avais créé un premier scénario où quelqu'un criait à l'aide et Dominique passe, il fait non, mais c'est sûrement un piège, on s'en va.
Et voilà, à voir.
Et après, il faut.
Et t'entends derrière l'écran du MJ et des feuilles qui se déchirent.
Du coup, dans les scénarios, lorsque tu achètes un scénario, ils te disent si les joueurs ne veulent pas le faire, dans ce cas-là, tu peux leur faire ce petit coup qui ne sera pas sympa et la prochaine fois, ils auront bien retenu la leçon.
Enfin bon.
Et ensuite, on a eu, après Advancé de Donjons Dragon, on a eu une version numéro 2.
Déjà, Advancé de Donjons, je me rappelle qu'on est retombé dans le même syndrome, c'est-à-dire qu'il y avait des piles de bouquins. Tu avais le livre du maître qui contenait tous les secrets. Entre guillemets, du maître. Tu avais le livre des joueurs que les joueurs pouvaient lire avec toutes les règles de création de personnages, d'évolution, tout l'équipement, ce qu'ils pouvaient gagner, etc. Tu avais le livre des donjons, des scénarios, etc. Enfin, le bestiaire, très important, le bestiaire qui contenait des centaines de pages de monstres bien détaillés, beaucoup de dragons bien sûr, parce que Donjons et Dragons, il y a dragons dans le tas, donc je sais pas combien il y avait d'espèces de dragons différents de toutes les couleurs, plus ou moins puissants, de tous les niveaux, etc.
Par contre, tu ne rencontres pas de dragons lors de tes premières sessions.
En général, ils sont... au début, tu tapes des rats, des petits gobelins, des bébêtes comme ça, des loups. Ah, tu peux te faire attaquer par les loups, on l'a tué. Mais les dragons, de toutes les parties, j'ai pas tué tant de dragons ça.
Ouais, c'est assez rare. Puis quand, lorsque tu vois le bestiaire, tu vois bien que les caractéristiques, c'est pour les joueurs à expérimenter. Ensuite, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce bouquin, par exemple, de maître de jeu, on a toutes les infos. Tous les équipements qu'on peut acheter, comment construire une maison,
C'est très puissant, quoi.
Ils ont vraiment été loin pour pouvoir permettre aux gens de créer tout ce dont ils souhaitent.
Et dès la deuxième édition, il commençait alors l'univers de Donjons et Dragons se passe dans un univers ce qu'on appelle médiéval fantastique, un petit peu largement inspiré de Tolkien, etc. Donc effectivement, on est dans un monde Moyen-Âge, il y a de la magie, il y a des dieux, etc. Et ça suffisait pas aux joueurs, il fallait qu'ils commencent à avoir des univers en plus. Donc tu pourrais jouer dans l'univers de base de Donjons et Dragons, donc l'univers, mais tu as eu des univers qui sont apparus comme les Royaumes Oubliés, Forgotten Realms, etc. Donc c'est un univers spécial avec, il y a des bouquins entiers avec des cartes et des villes, et dans, pour chaque ville tu as des noms, t'as des nouveaux dieux, des nouvelles races, etc. Donc, les elfes, je sais pas combien il y a d'elfes, de races d'elfes différents, tu as les elfes des bois, tu as les elfes des mers, tu as les elfes noirs qui vivent sous terre, les très méchants, tu as des elfes des montagnes, je suis aussi, mais même les nains, t'as des nains qui vivent dans les montagnes, t'as des nains des glaces, t'as des nains, t'as des tonnes et des tonnes et des tonnes. Tu vas aller dans une boutique de jeux de rôle et regarder les étagères des jeux de rôle, juste Donjons et Dragons, et tu as des lignes entières qui concernent des univers entiers. Tu as l'univers, donc le Forgotten Realm, c'est peut-être le plus connu, donc les mondes oubliés. Tu as Ravenloft, qui se passe un petit peu dans une espèce de Transylvanie avec des vampires un petit peu à la Dracula, etc. Tu as Birthright, c'est un univers que je connais pas trop, mais c'est vraiment les chevaliers, etc. Enfin, on est un petit peu plus dans le réel. Enfin, t'as plein d'univers. T'en parlais de tous les gens qui se sont inventés leurs propres univers, etc. Quoi.
C'est incroyable.
C'est incroyable la littérature qu'il y a là-dessus. Et oui, ça a détourné, ça a donné des bouquins, ça a donné plein de livres, etc.
En plus, tu rajoutes pas mal de fanzines et autres, clubs qui se sont mis, ou personnes qui sont à fond dedans, qui ont créé leur propre scénario, qui ont partagé leur propre classe mixte avec d'autres classes, et ils ont partagé ça à la communauté, qui est devenue petit à petit officielle pour certains fanzines, et qui sont devenus après joués par tout le monde, quoi.
De plus en plus de scénarios. Et on a eu, après cette version Advanced Donjons & Dragons, la version 3, qui introduisait plus de multiclasses, qui permettait...
C'était une version plus... J'utilise un gros mot, c'est streamline, mais qui était plus générique, plus facile à utiliser. Alors, les gens n'aiment pas forcément, mais c'est vrai qu'il était plus simple à utiliser, qui simplifiait un peu le système, etc. Et qui permettait sans problème la transition, quoi.
La
3.5.
Une
des plus connues. Et il s'est passé un truc important. Alors, c'est à ce moment-là qu'il y avait déjà eu des jeux vidéo dans l'univers, peut-être pas dès le premier Donjons & Dragons, mais avec le deuxième, des jeux vidéo et etc., des jeux de société. Avec la 3.5 sont apparus au moment où les jeux vidéo commençaient vraiment à se développer. Et là, il y a vraiment une espèce de, le public a adoré de plus en plus, quoi. Et il s'est passé un truc important, c'est que la société, à ce moment-là, c'est Wizards of the Coast, le créateur, enfin l'éditeur de Magic, des cartes Magic, qui avait racheté la licence Donjons & Dragons à ce moment-là, Gary Gygax avait déjà quitté la société à ce moment-là, qui a créé une espèce de système générique qui a un petit peu mis le système dans le domaine public.
Avec le Roll20 ou...
Non, avec le système de création le moteur de Donjons et Dragons, et donc il y a plein de gens qui pouvaient utiliser le système, ce qu'on appelle le système D20. C'est pas Roll20, c'est D20, c'est le système D20 qui... Et oui, parce que le D20, c'est le dé emblématique de Donjons et Dragons qui servait à beaucoup de cas.
On jouait beaucoup avec un D6 et d'autres D8.
Mais le D20, c'était vraiment le dé qui servait, je pense, dès la première édition pour le combat, quoi.
D'accord.
Toujours. C'est le fameux... Bah, le D20, quoi, qui est emblématique de Donjons et Dragons, par contre.
Alors, le problème, c'est que la version 4 est sortie assez rapidement après la 3.5, ce qui a créé un peu une frustration au niveau des joueurs qui se sont dit, bon, vous êtes bien gentil, je viens de finir d'acheter le...
C'est ça le problème. C'est que quand tu commences à jouer...
J'ai pas encore fini de rembourser mon hypothèque de maison, bordel.
C'est que quand tu joues, il faut acheter... Enfin, normalement, tu achètes juste le manuel des joueurs. Ouais. Ça suffit normalement. Avec le manuel des joueurs, tu as tout dedans. Ce qu'apporte le manuel du maître, c'est vraiment c'est vraiment pour les gens qui veulent aller plus loin. Le bestiaire, bon, ça peut être sympathique, mais au pire, tu t'inventes. Bon, si tu n'as que le manuel des joueurs et que tu as de l'imagination, alors là, t'es le roi du monde. Il y a aucun problème.
Alors,
la version 4, elle était très influencée par les jeux de simulation, de figurines et aussi. Bon, on va dire peut-être jeux vidéo. C'était un jeu qui revenait à la base de simulation. C'est-à-dire que les combats étaient très gérés case par case pour jouer avec des figurines, etc. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Alors, les bouquins sont magnifiques, les illustrations, etc. C'est peut-être la moins, polémique, mais il n'y a pas vraiment de polémique.
C'est dans la même veine que des miniatures.
C'est un petit peu, c'est ouais. ça.
Quand tu parlais d'illustrations, si on revient sur la première version de Donjons et Dragons, les dessins faisaient très comics, puisqu'ils se basaient un peu sur les comics américains de l'époque. Ça a beaucoup évolué sur les dernières versions. Là, on a vraiment un style qu'on va reconnaître partout, le médiéval fantastique, toutes ces magnifiques photos. Et ensuite, après le 4, on a eu le 5. C'est, aux dernières nouvelles, on est sur une version 5.
Ce qui date de 2000, elle est sortie en 2014 à peu près, c'est ça.
Voilà, pour l'instant, pas d'autres bouquins à racheter, tout va bien.
Oui, surtout que les bouquins coûtent dans les 40, une cinquantaine d'euros 40, chacun. Donc, quand tu investis, il faut être sûr que tes potes vont venir régulièrement jouer chez toi. Sinon, tu vas leur faire la gueule.
Puis il faut bien choisir son supplément aussi. Est-ce que des fois, tu as juste un scénario qui fait une dizaine de pages. Après, tu as que des news de, allez, si tu fais tel sort ou telle classe, tu peux avoir tel sort en plus. Ça fait une dizaine de pages. Puis après, par contre, tu as une dizaine de pages de noms de personnages lambda que tu pourras avoir si tu crées un personnage. Donc là, tu te dis, je vais claquer entre 40 et 50 euros pour 20 pages. Parce que les 10 pages de noms de perso, terrible. Ça, tu le trouves sur Internet sans souci.
Tu appuies sur un générateur de noms.
Voilà.
La limite, oui. Ouais. Bon, ça fait cher de la page.
Ouais. Par contre, pour le même prix, tu as de très bons suppléments de campagne qui vont te faire jouer des semaines et des semaines sans aucun souci. Clé en main.
Alors Dominique, tu parlais des jeux vidéo tout à l'heure qui ont été basés sur l'univers de Donjons & Dragons. Je vous propose de commencer par une petite musique qui va introduire l'un des plus connus, l'un des meilleurs jeux. Non, je m'avance un peu. C'est Baldur's Gate. Gates, ça c'était la version de la première édition qui est sortie sur PC en 1998 et qui est arrivée chez nous en 1999. C'était publié par BioWare et on retrouvait vraiment, c'est un jeu qui essayait de se coller le plus au système de règles de Donjons & Dragons. Et c'est l'un des plus complets qu'on a pu trouver au niveau des scénarios et du jeu de rôle.
Je pense que c'est celui qui représentait plus les tables. Finalement, tu avais des cartes où quand tu entrais dans un donjon, tu avais des grilles et puis tu déplaçais tes personnages au tour par tour et tu retrouvais toutes les listes d'attaques et de sorts et de compétences. Et tu avais quand tu crées ton personnage, tu avais l'impression vraiment de créer un personnage sur ta feuille en papier, etc. Il y avait, c'était vraiment très, 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 très proche du jeu papier, quoi.
Et tu passais vraiment beaucoup de temps à créer ton personnage.
Oui, ou à recréer un personnage, tu veux dire, c'est ça?
Ce qui était pas mal aussi, c'était que lors des combats, parce que l'aventure d'un jeu vidéo, c'est en temps réel, donc tu te balades tout le temps, mais tu devais cliquer à un des endroits pour que ton personnage y aille, et pendant les combats, ça se mettait en tour par tour, enfin en round par round, pour rester plus jeu de rôle. Et quand tu disais à ton personnage, va faire un tour et va dans le dos de l'ennemi pour lui mettre un petit coup en traître, il mettait des fois... plusieurs rounds à y aller, et toi tu disais, mais dépêche-toi, parce que le tank est en train de souffrir, malheureux.
C'était très mortel et très subversif. Et puis, il y avait, ça reprenait des quêtes. Baldur's Gate, c'est un endroit, c'est une ville, oui, c'est ça qui existe vraiment dans un des univers de
Forgotten Realms.
C'est ça.
Donc, les royaumes oubliés, encore une fois. Et ça reprenait donc l'univers, ça reprenait les règles, ça reprenait forcément toutes les classes. Et il y avait beaucoup de key factors, donc de changements selon la quête. Comment vous réalisez votre quête, selon les choix que vous faisiez lors de la campagne, il y avait une fin différente où des personnes n'étaient plus là, donc vous ne pouviez plus continuer votre quête.
Un ordinateur ne peut pas, quelqu'un qui développe le jeu vidéo ne peut pas imaginer à l'avance toutes les possibilités que vont demander les joueurs, quoi. Si un joueur arrive et il vient à la taverne et puis il veut boire une bière, que dans le jeu vidéo le mec n'a pas codé qu'il y avait de la bière, qu'il y avait que de l'hydromel ou d'autres alcools, on est embêté. Mais là, ils avaient ça simulait un petit peu le côté où quand tu faisais des choix, effectivement, ça, il y avait plusieurs embranchements, mais bon, sur un jeu vidéo c'est forcément limité, quoi.
Et même ces choix, en plus de mettre une modification sur l'histoire ou tes quêtes, il y avait aussi une modification sur les PNJ qui t'accompagnaient, et là c'était vraiment pas mal, quoi. Parce que tu pouvais faire des bonnes actions, si t'avais un filou dans le groupe qui lui ne pensait qu'à sa gueule, et à la fin il allait dire t'es gentil, mais sauver le chat et l'orpheline, je m'en fous, quoi, je me casse.
C'est vrai que dès le premier, dans le jeu de rôle, comme dans le papier, comme dans les jeux vidéo, il y avait la notion, quelque chose qui a parfois...
Les
fameux alignements. Ouais. Quand tu crées ton perso, donc tout à l'heure on choisissait les caractéristiques, comme je disais, et tu choisissais ton alignement.
Pour qu'il y ait une sorte de cohérence dans les actions de ton personnage.
Alors, en général, tu pouvais choisir ce que tu voulais, à part le paladin qui était obligé d'être un loyal blond, donc c'était un loyal
pas blond,
souvent blond.
Mais souvent il était blond.
Il était gentil, il était obligé de protéger la veuve et l'orphelin, et alors quand t'avais un paladin dans un groupe qui était loyal blond, et puis un voleur qui était méchant, un assassin, c'était pas possible à gérer. Théoriquement, c'était pas possible à gérer.
Alors, tu pouvais tricher en disant, mon personnage ferme les yeux.
Oui, c'est ça.
Parce que dans une partie de jeu de rôle, forcément, tout le monde parle, et lorsque tu fais des actions que tu fais quelquefois en secret, soit le maître de jeu te prend un part dans une pièce, mais généralement c'est pas le cas. Ouais. Donc tu es obligé d'ignorer certaines actions, c'est terrible.
Tu peux jouer un paladin qui est donc loyal, bon, un pur, vraiment un guerrier héroïque, etc., pur et bon, etc. Mais si toi-même, de ton côté, tu peux pas le faire agir de façon négative, quoi, c'est assez compliqué.
Il y a eu certains, je trouve même dans le Baldur's Gate tu pouvais le faire agir de côté neutre, voire méchant, et tu perdais des points d'alignement, et dès que tu changeais d'alignement, ton personnage ne pouvait plus progresser.
Voilà.
Il était obligé de refaire des bonnes actions pour re-obtenir son alignement loyal bon, pour que son personnage pouvait encore progresser et repasser des niveaux. Et en plus, connaissant Baldur's Gate, pour avoir des points d'expérience, c'était pas mal compliqué. Donc tu tirais une balle dans le pied, en fait.
C'était assez difficile, surtout pour les gens qui jouaient à l'époque à beaucoup de hack and slash. Mm-hmm. Lorsqu'ils sont arrivés sur Baldur's Gate, il fallait lire beaucoup de textes.
Oui.
Il fallait être patient, puisque c'était pas facile d'évoluer, c'était pas facile d'utiliser ses compétences avec des personnages qui ont deux points de vie, hein, comme disait Dame tout à l'heure.
Ça va.
Donc c'est vraiment un jeu qui a marqué les gens, parce qu'il prenait vraiment, il avait son parti pris à suivre les règles de Donjons et Dragons, faire comme si vous étiez dans une partie un peu de jeu de rôle. Hein.
Surtout que pour un jeu vidéo, tu avais les zones piégées qui étaient affichées sur la map. Et on va dire des zones affichées, ce qu'on appelle les triggers en jeu vidéo, où si tu n'avais pas une personne pour les détecter,
c'était très puissant.
Tu marchais dessus, tu te prenais des dégâts tout de suite, ou quoi qu'il arrive, ton personnage avait très mal.
Ça faisait vraiment tout le travail du maître de jeu, quoi, qui était pas obligé de dessiner les cartes, c'est l'ordinateur qui le jouait à la place.
Alors que là, avec le personnage, tu voyais les zones s'afficher à l'écran, par exemple, juste devant une porte, et tu fais, bon, ok, mon filou a détecté le piège, maintenant on va essayer de le désarmer, mais ça c'est une autre histoire.
Donc il y avait bien sûr un Baldur's Gate 2 dans les années 2000, et là...
Des extensions et des scénarios en plus, ça vraiment...
Il y avait le salon de l'E3 la semaine dernière, et on a pu apprendre qu'il y aurait un Baldur's Gate 3 3 qui est en production par les studios Larian, donc c'est un studio belge.
C'est ça.
Et qui va avoir la grosse responsabilité de créer cet univers qui est très attendu par les joueurs.
Ah oui, il y a une fanbase très importante et très critique et très exigeante.
Et comme la majorité des gameplays de l'E3, bah, il n'y a pas de gameplay, donc c'est juste... c'est soit un logo, soit une cinématique...
Plus d'informations plus tard, avec un peu de chance.
Vous avez un peu suivi l'E3, pas du...
Un petit peu, mais c'est...
Ouais, en diagonale.
Vos grosses attentes ?
Je n'ai vu que des gros jeux, et les gros jeux sont pas très intéressants.
Comme d'hab, moi, Bethesda avec le Elder Scrolls 6 qui est dans 2 ans, maintenant, voire même 3.
Bah, Elder Scrolls a juste envoyé un logo. Hein,
c'est ça. De toute façon, il indique soyez patient. Bon, bah ok. Voilà. À l'année prochaine.
Comme tous les Elder Scrolls un peu. Hein. Ouais. C'est vrai que chacun a mis plus ou moins des sous sur la franchise dont qui cartonnait. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de surprises pour les joueurs. Nous, de notre côté, on va peut-être attendre Baldur's Gate 3.
Après, il y a eu pas mal de petits jeux, ben, je ne vais pas dire indépendants, mais on pourra en parler.
Ouais. Et tu parlais de la convention avec les Elder Scrolls, c'est vrai qu'ils avaient un peu du mal à annoncer des grosses choses, hein, à part les extensions sur leur nouveau jeu dont on avait testé Blades. Hein, ça donne beaucoup envie aux joueurs, des extensions sur leur jeu de cartes. Voilà, pas grand-chose.
Pourquoi toujours se fâcher avec les gens?
Après, quand t'as rien à présenter, mais que tu dois tenir 1h30 de conf, ben, tu fais comme pour un triple A, tu brasses du vent, quoi.
Un autre jeu Donjons et Dragons qui vous a marqué peut-être plus
dans les vieux de la vieille, oui, les Eye of the Beholder qui est déjà sorti sur les micro-ordinateurs, c'était même pas ordinateur, c'est micro-ordinateur. Eye of the Beholder où c'est un jeu en 3D. Tu te déplaçais vraiment dans un donjon, au case par case, en 3D, tu tournais à l'écran, t'avais un monstre en face de toi, tu tapais dessus, il te tapait dessus, c'était horrible. Comment on a pu jouer à ça? C'est terrible. C'était magnifique.
Tout droit, à gauche, à droite, et tu te retrouvais perdu dans un donjon.
Et tu dessinais la carte, alors, soit le jeu vidéo avait la carte intégrée, tu prenais ton cahier d'école avec des petits quadrillés, puis tu dessinais avec ton crayon les plans pour revenir la prochaine fois avec ton nouveau personnage que tu avais dû recréer et fouiller, etc.
Ça rappelle limite des mauvais souvenirs en fait.
Non,
à l'époque, c'était bien. Il y a encore des versions des jeux Android qui utilisent toujours ce système Eye of the Beholder. Alors, vu qu'on a cité Eye of the Beholder, on va faire une petite dédicace à Reynald, hein, petit instant.
Ah, Beholder.
Petit instant plaisir du Reynald.
Avec une chanson de Metallica.
Tout à fait.
Qui s'appelle
Eye of the Beholder.
Voilà. Et qui va réveiller un peu les gens qui commencent à s'endormir dans l'émission. À tout à l'heure.
Freedom, a choice is made for you, my friend. Freedom. you see, or into it what you read. You can do it your own way.
L'œil du tyranneuil, ça sera la version française. Alors, le Beholder, donc, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est
neneuil.
Le neneuil, oui, ouais, c'est une espèce de créature inventée qui fait partie du bestiaire et des nombreuses créatures inventées par Gygax et ses compères, qui est une espèce d'œil géant qui flotte avec des tentacules, un mélange de méduses et d'œil géant.
Qu'on a retrouvé dans Doom.
Entre autres, oui, bah,
ouais, c'est sans les yeux.
Et quand t'en rencontrais un, en général, t'étais pas content vite, parce que tu courais vite dans l'autre sens. Hein. Mmh. Une saleté.
T'avais une 9 chances sur 10 de refaire un perso.
un groupe de persos.
Voilà.
On va essayer de parler rapidement d'autres jeux vidéo, tels que Icewind Dale, qui était un peu une...
Le Baldur's Gate, mais en version dans les territoires glacés. Alors, je sais plus si c'était dans Fog of Tamiz ou ADD. Mais il était... Pas mal dans le sens où ils mettaient plus le cap sur l'aventure, sur les rencontres aléatoires et surtout sur les pièges qu'on pouvait faire. Par exemple, si on parlait avec un personnage parce que ça faisait ta mission et en fin de compte, tu faisais plus de 3 phrases avec lui, bah, ça déclenchait une autre façon de jouer. Par exemple, il te disait, bah voilà, maintenant c'est fini, tu passes à autre chose. Tu perds la quête en cours parce que tu m'as laissé le temps de franchir le cap, par exemple.
Les Baldur's Gate avaient eu tellement de succès. Ils se vendent encore. Ils sont ressortis d'ailleurs il y a quelques années en version haute résolution, remasterisée, etc.
Ça,
il y a 2-3 ans.
Chose.
C'est la même chose que. Voilà, sauf que
il y a une version Android.
Pour les ordinateurs de maintenant, voilà, ça permet d'avoir les textures haute densité. Donc tu pouvais rejouer, mais il n'y a absolument rien de changé. Il faut vraiment avoir l'œil. À part visuellement, je veux dire. Donc, comme quoi, ça marche toujours maintenant, quoi.
Et nous, on a testé, on parlait d'Android, d'un jeu d'actualité
aïe.
qui est estampillé Donjons et Dragons.
Absolument.
On se demande s'ils ont vraiment eu de la pression à bien utiliser la franchise. On va parler des guerriers de Waterdeep.
Waterdeep, Waterdeep, c'est une ville, c'est eau profonde en français, une ville de l'univers de Forgotten Realms, si je ne dis pas. Il y a les fans qui vont me tuer si c'est faux, mais c'est pas grave.
Mais c'est vrai que maintenant, tu as un doute à chaque fois entre
donc, de quel François univers ça vient. Nous a tout content invité. Hey, regardez ce jeu, c'est dans l'univers de Donjons et Dragons. On peut tester. Voilà.
Vous pouvez le tester, s'il vous plaît.
Pas de problème, je l'installe sur ma tablette, je teste.
C'est de belles images qui m'ont donné envie.
À de très belles images. Des trailers qui ont des très belles musiques. On voit qu'il y a eu des moyens derrière.
Les voix sont bien claires en plus.
Je vais mettre la musique de Waterdeep derrière, ça nous permettra de bien nous mettre dans l'ambiance. La musique est bien. Alors, qu'est-ce que c'est comme jeu ? Tout simplement. Et bien, vous allez jouer une équipe de mercenaires, un peu comme dans tous les Donjons et Dragons, avec un guerrier. Vous avez d'autres classes telles que le magicien, le roublard.
Le clerc. Le guerrier, oui.
Voilà, voilà.
C'est un petit jeu mobile où, comme il y en a des tas, où tu gères une équipe, tu affrontes des donjons, des méchants, etc. Tu les tues, puis tu obtiens des récompenses. Dans ces récompenses, il y a des coffres. Et dans ces coffres, qu'est-ce que tu trouves ? Des armes pour équiper tes personnages, des nouveaux personnages pour faire évoluer tes personnages. De temps en temps, tu peux ajouter un nouveau personnage à ton groupe et tu vas affronter des monstres de plus en plus méchants. Tu affrontes. Alors, il y a une espèce de scénario de campagne, etc. Et faut avouer qu'ils ont mis les moyens. En fait, c'est ce qui m'a surpris au début. Je me dis, oh, ça promet. Il y a des moyens graphiquement. C'est oui, ça va, ça tombe bien.
La jouabilité est correcte.
La jouabilité était très correcte.
Oui, t'as de bonnes animations aussi.
Ça va. Ouais. Et les sons, j'étais surpris. Il y a des voix en français, en anglais. Alors c'est le défaut. C'est le premier défaut qui m'a bloqué, c'est que quand je cherche un jeu comme ça et qui c'est un jeu développé par un studio anglais ou américain, j'essaye de le mettre dans la version originale pour avoir les voix originales, etc. Parce que les doublages, je suis pas fan. Mais même. Il y a eu des voix dans toutes les langues et des musiques, et il y a eu des moyens, parce que au début, t'as des scénarios, t'as une espèce, et t'as une voix qui te raconte l'histoire, le scénario, et c'est des vrais comédiens qui ont été engagés. Je dis, bon, ils ont mis des moyens pour une application gratuite, encore une fois. Gratuite jusqu'à un certain point, n'est-ce pas, Rénal?
Parce que l'avancement dans le jeu est très très lent. Le système de progression.
Les trois premiers niveaux vont vite, et voilà. À partir du quatrième.
On va dire que l'équilibrage est très mal fait, ou alors très vicieux. Parce que très mal fait dans le sens où on arrive très vite dans le donjon à se retrouver contre des créatures qui sont trop puissantes contre nous et donc qui nous obligent à farmer le jeu. Mais farmer le jeu, c'est pratiquement impossible.
C'est-à-dire qu'il faut farmer en PVP et le PVP,
le matchmaking est encore plus pourri.
Je peux pas aller si loin, moi.
C'est équilibrage zéro et zéro.
Et en plus,
tu tombes contre des gens trop forts. Et le problème, c'est que t'as beau avoir une certaine tactique, une certaine évolution de personnage, si l'autre en face a deux niveaux de plus, il y a rien à faire.
Ouais. Tu peux rien faire. Faut lancer le jeu en gros plusieurs fois par jour pour ouvrir tes petits coffres et les relancer, etc. Il y en a des milliers comme ça, de ce genre de jeu comme ça. Évitez celui-là, il y en a qui sont beaucoup mieux, qui sont plus rapides à charger en plus, etc.
Il est sympa à jouer, les trois
niveaux. C'est ce que je lui reproche, c'est qu'il y a des moyens dedans, mais c'est paresseux à un certain moment. Et en plus, on disait qu'il est gratuit, tu peux passer en mode premium en payant un abonnement.
Voilà, c'est ça le pire. T'as pratiquement 11 euros, voire 12 euros. Par mois.
Pour rien, quoi.
Et en fait, on gagne pratiquement rien. On tu gagnes quelques pièces d'or en plus.
On parle pas du genre de jeu où de temps en temps tu mets 1 ou 2 euros pour aller pour débloquer 50 gemmes, etc. Parce que c'est une promo et ouvrir et débloquer un look de personnage qui te plaît bien. En plus, le premier défaut, c'est qu'on te donne deux personnages, on a tous eu les mêmes. On s'est pas concerté, mais on a les mêmes personnages au début. Un elfe et je sais plus quoi. Déjà, on a un elfe. Si on n'aime pas les elfes, on n'est pas content.
Moi, j'ai eu un elfe clair. En gros, et c'est une humaine magicienne.
C'est une humaine magicienne, un clair. On a tous les mêmes. Et le prochain personnage qu'on nous propose, on a eu le même aussi. Je sais pas, c'est assez ridicule.
Ça m'avait
toutes
fait
les personnes
peur.
Ouais. L'elfling guerrier. What? ont tous eu la même. J'ai l'impression que toutes les personnes ont joué de la même façon, au même jeu, etc.
Pour moi, le seul point fort que j'ai vraiment aimé, c'est l'aspect des cartes lorsque tu ouvres ton paquet de cartes. Tu as l'impression d'avoir un vrai paquet de cartes et tu te dis, ah, j'ai pas été acheté au magasin encore 10 euros, je souffre de mon addiction d'ouverture.
Après, ils ont bien joué le système de points d'expérience parce que c'est les cartes elles-mêmes. Quand tu passes par exemple, il faut 4 cartes du pantalon de ton personnage pour le faire évoluer le niveau du pantalon en lui-même, moyennant des pièces d'or que tu peux gagner dans le jeu. Et hop, ça donne un petit peu d'expérience en plus à ton personnage qui progresse vers le niveau suivant.
Mais c'est trop long.
Mais ce qui fait que tu vas devoir garder tous tes équipements, tu peux pas les revendre pour avoir des pièces d'or parce que c'est autant de points d'expérience
je
que tu vas pas avoir.
Je sais même pas si tu peux vraiment c'est... jouer avec des amis ou si des avantages ou pas. Il y a pas de côté communautaire. Non, tu joues de ton côté tout seul.
Pas encore. Le gros défaut pour moi, ce sont les classes. J'espérais avoir mes genre 20 personnages à choisir par classe et avoir.
Tu peux pas créer ton personnage à toi, le relooker un peu. Non, c'est des personnages imposés.
Et ça, c'est un gros défaut du jeu. Et ce qui fait que tu n'accroches pas, quoi. On y a parlé plus. Dom en a parlé plus qu'il en a joué.
Vous allez enfin le désinstaller, j'espère.
Ou pas.
Ça fait longtemps qu'il est parti.
Mais par contre, tu reviens sur le matchmaking, dont tu parlais tout à l'heure.
On a déjà trop parlé de ce jeu.
Non, mais tu fais des équipes de 4 personnages pour aller affronter une équipe de 4 personnages. Mais si dans ton set, tu as 5 personnages, toi, ton équipe, elle est blindée. Par exemple, elle est niveau 4. Et le dernier personnage que tu n'utilises pas, il est niveau 1. Le matchmaking fait qu'il va prendre 4 personnages pour affronter l'adversaire au hasard dans ton pool de personnages. Des fois, je me suis retrouvé avec un personnage de niveau 1. J'ai fait, mais c'est pas mon équipe, ça. Ça n'a rien
allez,
à voir,
allez,
quoi.
Allez, on zappe.
Dommage, on peut plus.
Voilà, donc n'installez pas Waterdeep. Même si vous aimez Donjons et
Ou alors,
c'est guerrier de Waterdeep, et donc tu as une belle icône guerrier sur ton téléphone qui n'a rien à faire là.
Ou alors, installez-le et postez des photos sur notre Facebook juste pour marquer « On t'énerve d'homme ».
Pas du tout alors.
Alors, est-ce qu'on déballe l'album découverte qu'on a récupéré
si tu veux,
à la porte
de... faire ton album découverte. On finira ce long dossier sur Donjons et Dragons une autre fois.
D'ailleurs, puisqu'on n'a pas encore parlé des jeux de plateau, on n'a pas encore parlé des films, mais on a encore beaucoup de choses à dire sur Donjons et Dragons. Si vous voulez, s'il y a des souhaits ou des exclusivités, vous voulez nous en parler, n'hésitez pas soit à nous appeler sur le standard
Radio Campus. Des bêtises qu'on a dites, ça, il y en a pas.
Surtout sur notre Facebook, heureusement. En France, et vous avez aussi notre site internet anotherpodcast.fr. Alors, on a un contrat avec Radio Campus, c'est nous sommes dédiés d'ouvrir la boîte aux lettres avec tous les CD que les gens mettent. Et on a reçu un bel album aujourd'hui de Christophe. Mais que devenait Christophe ?
Tu vas pas me dire que Christophe joue à Donjons et Dragons, qu'est-ce qu'il fout là ?
Ça n'a rien à voir avec Donjons et Dragons, mais bon, ça fait 2 semaines qu'on n'ouvre pas les albums, alors il faut bien, commencer.
Faut s'en débarrasser là.
Et Christophe a décidé de reprendre ses plus beaux titres.
Ah oui. Et déjà un album original. Bon, si il avait sorti un album original, c'est sympathique, quoi. Mais
en collaboration avec de grandes stars telles que Eddie Mitchell.
Bon, ça va ? Ouais, ça va.
Alors Christophe a un peu du mal à chanter en ce moment. Du coup, il a découvert un truc qui s'appelle l'autotune.
Faudrait qu'on parle de cette appli.
Rénal va réinstaller l'application autotune.
C'est quelqu'un qui a toujours... dès le début de sa carrière, innové en matière de musique, cherché des nouveaux instruments, des nouveaux sons. Il a toujours essayé d'explorer plein de nouveaux domaines musicaux, quoi, pour les ajouter à sa... Mais là, l'autotune s'est dépassé, quoi.
C'est
bien pour un petit jeune rappeur qui a pas de voix, pléonasme, un petit jeune rappeur qui a pas de voix, mais pour essayer de mettre un petit peu de vibration dans sa musique, jeune rappeur et musique, ça va pas non plus ensemble. Faut que je trouve faut inventer des nouveaux termes pour la musique.
Il arrive.
S'il arrive à autotuner Eddie Mitchell, c'est pas possible. Non, on peut pas être autotuné. On est en quelle année, là, rappelle-moi.
L'album s'appelle Christophe ETC.
Excellent.
Allez, peut-être une qui bouge un peu plus, parce que Eddie Mitchell, là, c'est pas possible.
Si, il bouge encore.
Je vous laisse deviner qui participe.
C'est plus jeune que... Non. Est-ce que c'est plus jeune que Eddie Mitchell ? C'est pas difficile, tu vas me dire, mais...
Là, il s'est réuni avec Sébastien Tellier.
On sent la réinventation du morceau.
On commence à sentir l'autotune qui démarre.
Seigneurita, dépêche-toi.
il y a quand même... Alors je dis pas que cette version est nulle, mais il a massacré cette chanson qui est encore trop mal à la base.
Etienne Dao.
Etienne Dao est autotuné.
Attention, Christophe sur son album ETC avec Petit Gars. Etienne Dao.
Etienne Dao, on se moque toujours de lui parce qu'il a pas de voix, tu vois. Enfin, il parle très faiblement. T'imagines autotuné? Faut monter le volume et en plus autotuné.
Je suis le tout petit gars perdu dans la ville. Je crie love, 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 love. Seul entre ces tours d'acier, je me sens fragile.
Faudra enlever la voix. Et limite, ça ferait une belle ambiance pour un bon jeu de rôle.
C'est ce que j'étais en train de me dire justement.
Bien flippant. Il restait un peu de la de drogue que Sébastien Tellier va porter dans le studio.
Il y a un facepalm unanime. Attention.
Oui, mais non. C'est un clone numérique de Christophe. Là.
Il prépare son album posthume où il fera des scènes en 3D.
Est-ce qu'il est encore vivant déjà là? Je suis même pas sûr.
Tu veux dire que c'est comme Renaud? Il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière.
Ils ont reconstitué sa voix à partir d'extraits de voix digitale. C'est terrible.
C'est fou les progrès technologiques qu'on peut faire en musique. Bon.
C'est pénible. Hein.
Voilà, c'est un magnifique album. Allez. Il y en a encore, je vous le mets.
Ouais, pour tous ceux qui ont regretté Metallica juste avant, bon courage.
Sans parser les morceaux, t'as des noms des autres coupables du public.
Là, c'est Nusky et Vahati. Vahati.
Intéressant.
Et il nous a coûté 20 000 euros ce logiciel d'autotune. On a intérêt de l'utiliser.
Terrible. Mais il a trouvé un nouveau jeu. Il a piqué le bon tant pis de son gamin, tu vois. Ou c'est son gamin qui joue sur son bon tant pis, qui tape des trucs au hasard sur le clavier, ça fait ça. C'est terrible.
C'est dommage, j'avais préparé plein de super news insolites.
C'est pas assez insolite pour toi, ça? On s'en lasse. Le pire, c'est qu'on s'en lasse pas. Hein. Il y a d'autres noms hein. Bon, c'est comme Sting qui a fait son album avec Coolio. Non, c'est pas Coolio. Enfin, c'est terrible. Ça.
Je veux même pas en parler puisqu'il a déjà ressorti un album, Sting, en retravaillant toutes ses chansons.
C'est le Christophe anglais.
Et il va être il est sur la liste des albums découvertes. C'est juste que Christophe l'a doublé de très peu pour passer dans l'émission aujourd'hui. Bon, Dom, je vais te couper la musique puisque tu voulais nous parler d'un événement. Une recommandation.
Absolument.
Arrête de me perturber, Christophe.
C'est terrible. Non, parce que hier soir, je me baladais du côté de Fives et j'ai eu la chance de tomber sur la maison de la photographie, qui est un lieu qu'il faut absolument visiter à Fives. Et il y avait une exposition qui s'appelle Mobile Immobile, qui est organisée par. Qui a réuni des artistes et des chercheurs qui se sont travaillés sur le thème de la mobilité, un thème très à la mode, etc. Donc j'ai eu la chance de la visiter hier, c'était donc le vernissage de l'exposition. C'est organisé par le Forum Vie Mobile. C'est assez sympa parce que la maison de la photographie, c'est à Fives, c'est pas loin du métro Fives si vous connaissez pas. Et on se balade on commence dans la région, on se balade simultanément à Tokyo, à New York, Amsterdam, etc. Il y a plein d'œuvres modernes très très intéressantes. Ça commence, j'étais très très intéressé par la première œuvre qu'on voit. C'est un chercheur qui a visité des personnes du Nord-Pas-de-Calais, etc. Et qui a fait un roman photo avec leur vie et comment leur vie est impactée par le manque de mobilité. les gilets jaunes, etc. L'actualité, c'est assez passionnant sous forme de c'est un roman photo géant qui est installé sur un mur entier. C'est passionnant à voir. À l'étage, vous avez une salle qu'il faut absolument visiter. Je vais pas spoiler, mais c'est la salle de décélération. Il faut y aller une fois. Il y a une horloge très spéciale à l'intérieur qui pouvait décélérer. Vous passez des rideaux, vous vous retrouvez dans la salle de décélération et vous avez l'impression d'être ailleurs. Mais il faut y aller pour voir ça.
On a des surprises et alors.
Absolument. Il y a des artistes chinois, des artistes indiens, etc. On est à Mumbai. Ensuite, on se retrouve au Texas, etc. On apprend plein de choses sur les néo-travelers, ces nouveaux voyageurs qui se déplacent, les voyageurs indépendants, les gens qui ont besoin juste d'une connexion internet et d'ordinateur, donc qui n'ont pas besoin de domicile, qui se baladent dans des camions, etc. Et il y a plein de choses à voir dans cette exposition. Et il y a une petite exposition qui m'a intéressé. C'est on passe des extraits de films. Il y a trois films. Il y a Metropolis, le film de Fritz Lang de 1927, il pas de bêtises, qui prévoit déjà des dizaines d'années à l'avance tous les problèmes de mobilité qu'on a maintenant avec les transports en commun, les bus, les métros, etc. Il y a un extrait de Fast and Furious, forcément, avec l'addiction à la vitesse, etc. Et il y a un extrait d'un autre film qui est Bullitt, la fameuse scène de la poursuite de Bullitt, le film avec Steve McQueen de 1968. C'est bon, t'as mis la musique. Avec cette fameuse musique de Bullitt. Donc, c'est à la Maison de la Photographie, 28 rue Pierre Legrand à Lille. On va dire que c'était gratuit, c'est bien, ça sera payant, malheureusement, si vous y allez. Mais c'est à voir à tout prix si le thème de la mobilité, la nouvelle mobilité, vous intéresse.
Voilà, c'était la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Peut-être qu'on continuera ce dossier Donjon Dragon. N'hésitez pas à aller sur le site Facebook Heureusement en France. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
À plus.
Thank you.